Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous les auditeurs. Je suis content de vous retrouver comme tous les mois. Alors à tous et à toutes, je suis très heureux de vous parler encore une fois de plus de ma Valtorta, de partager ce trésor que Jésus nous a donné, dont nous avons hérité. Et pour ceux qui connaissent cette œuvre, pour ceux qui la découvriraient éventuellement ce soir, eh bien, écoutez bien tous les dons que le Christ peut faire surgir en nous dans cet enseignement magnifique qu'il donne dans cette vie de Jésus qu'il a donnée à cette femme donc paralysée dans son lit dans les années 40, qui n'avait aucune information extérieure dans sa pièce et qui pourtant a décrit parfaitement, de manière inouïe, de manière unique dans l'histoire et de la littérature chrétienne, eh bien, la vie de Jésus dans son pays, en Terre Sainte, avec tous les détails qui nous sont revenus, qui sont vérifiés maintenant par plus de, je le rappelle, 40 spécialistes maintenant de tous les domaines, archéologie, topographie, et qui démontrent que cette œuvre est bien une œuvre surnaturelle, en plus de la théologie qu'elle contient. Alors ce soir, je vais vous parler d'abord de Monseigneur Roman Danilac, qui est mort en 2012, hein, qui était un évêque de l'Église d'Ukraine, et qui a donné, rappelons-le nous, hein, c'est bon de se le rappeler, un imprimatur à l'œuvre de Mme Valtorta. Oui, quand on fouille un petit peu sur Internet, malheureusement, parfois on trouve de nombreux détracteurs, des sites que je ne citerai pas, qui disent du mal de l'œuvre, et je vous rappelle que tous ces gens ont un point commun. Eh bien, ils ne connaissent pas l'œuvre. Tous les gens qui en disent du mal, qu'on peut rencontrer, nous, et ils sont par centaines maintenant depuis des dizaines d'années, eh bien, il y a des milliers de personnes qui lisent et qui l'aiment beaucoup, il y a des personnes qui en disent du mal, eh bien, ces gens-là ont tous un point commun, c'est qu'ils n'ont pas lu. Alors, cet évêque, Monseigneur Danilac, eh bien, était licencié de théologie, il était titulaire d'un doctorat en droit canon, hein, obtenu à l'université pontificale de Latran, quand même, et comme expert, il participe ultérieurement à la révision du droit canonique dans sa partie traitant des églises orientales. Il est basé à Toronto et devient à 62 ans administrateur apostolique de l'église gréco-catholique ukrainienne pour tout l'Est canadien. Donc, en août 92, alors simple prêtre, pardon, du Winnipeg, il publie un long article dans lequel il réfute les critiques formulées à l'époque à l'encontre de l'œuvre de Mme Valtorta. Et il étaye son point de vue favorable à l'œuvre. Le 24 juin 2001, devenu administrateur apostolique, il délivre avec tout le poids de sa fonction un imprimatur attestant de la parfaite conformité de l'œuvre avec les évangiles canoniques, la tradition, je le cite, les évangiles canoniques, la tradition et le magistère de l'Église catholique. Donc rassurez-vous, chers auditeurs, chers lecteurs, et ceux qui se posent encore des questions, eh bien, vous pouvez lire l'œuvre L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Mme Valtorta, il est parfaitement conforme au magistère de l'Église catholique, d'après ce spécialiste. Le 13 février 2002, il encourage officiellement la consultation d'un site qui publie l'œuvre de Mme Valtorta et réaffirme la conformité de celle-ci à la foi catholique. Je le cite, il donne un cyber-imprimatur, qui est une nouveauté. À cette occasion, il mentionne que le cardinal Ratzinger, en lettre privée, a reconnu que ce travail est exempt d'erreurs de doctrine et de morale. Mais il ne précise pas ses sources privées. Voilà, donc c'est rassurant pour vous, pour nous. J'aime citer à chaque fois l'exemple d'un prélat. On en a donné d'autres, on en donnera encore d'autres. Le plus célèbre étant quand même parmi les saints Padre Pio et bien sûr, je le rappelle, Pie XII, qui a donné la permission de la publication, hein, le 26 février 1948. Voilà pour la petite introduction qui, j'espère, mettra à l'aise les personnes qui veulent et qui pensent, eh bien, comment dire, s'assurer que l'œuvre est bien conforme à l'enseignement de l'Église. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des petits extraits, d'autres petits extraits de cette œuvre, notamment un passage où Jésus nous remet en place, Jésus nous rappelle qu'il n'y a pas que notre corps dans la vie. Et il nous reproche d'avoir un culte trop important pour notre corps, alors qu'il ne se sent pas concerné. Moi-même, des fois, je me dis, bah oui, c'est vrai, on a attribue une importance au corps. On appréhende pour la mort charnelle. Et Jésus nous rappelle que c'est pas du tout ça le plus important et de très loin. Et cet enseignement nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors, je vais vous le redonner très, très vite. Nous parlerons aussi de dimanche prochain, l'évangile de dimanche, Et le passage qui correspond dans l'œuvre de Malterta, vous allez voir comme c'est merveilleux, c'est le baptême de Jésus. Et donc, dans l'œuvre de Malterta, la vision est absolument magnifique. Et enfin, nous parlerons un peu de la Sainte Vierge Marie, comment elle est mise à l'honneur dans cette très belle œuvre et comment Marie, par exemple, dans différentes visions, eh bien, s'occupe de soutenir son fils dans sa mission de manière assez inattendue, telle qu'on ne voit pas très bien détaillée dans les évangiles canoniques. Nous le verrons avec Marie Valtorta. Et puis, j'ai préparé quelques extraits de l'œuvre sur des sujets comme le sujet de la bonté, qui est un sujet absolument magnifique. Et Jésus nous dira quelques phrases sur la bonté. Voilà, alors je commence sur l'enseignement sur Jésus, de Jésus, sur l'importance que l'on accorde sur le corps, trop importante donc sur le corps. Alors Jésus nous dit, c'était le 12 octobre 1943, Jésus enseigne Maria et il nous dit, peu nombreuses sont les âmes qui ne viennent pas à Dieu, et peu ternies, foncées par les conséquences de la vie qu'elles n'ont pas su mener, avec cette sainte et attentive réflexion qu'il faudrait avoir par le respect, par respect pour l'âme, dont les droits sont supérieurs à ceux de la chair. Donc c'est l'occasion de se rappeler quels sont les droits de l'âme par rapport à ceux de la chair. Et Jésus poursuit. Vous vous souvenez toujours des droits de la chair. Une chose qui meurt et ne peut devenir à son heure habitante des palais des cieux qu'en vivant comme servante de l'esprit et non comme son maître. Alors Jésus nous rappelle là qu'on ira au ciel avec le corps, mais seulement si on dessert d'abord l'âme. Vous vous préoccupez de l'esthétique de votre apparence, de votre santé. Vous vous souciez de prolonger le plus possible votre vie sur terre, mais vous ne vous préoccupez pas de votre âme, de la garder belle, de la parer de plus en plus en ajoutant à la beauté que Dieu lui a créée les pierres précieuses acquises par votre volonté d'enfants soucieux de leur père, à qui ils veulent retourner enrichis de mérite, véritables joyaux, véritables richesses qui ne périssent jamais. Vous vous préoccupez de votre santé physique. Vous ne veillez pas à préserver votre âme des maladies spirituelles. Vous souciez de prolonger ce que vous appelez vivre et qui serait pour plus juste d'appeler attendre. Mais vous ne vous souciez pas d'attendre de façon à conquérir la vraie vie qui ne périra plus. Vous vous préoccupez de tout en cette période obscure qui vous semble si lumineuse, de votre halte sur la terre, et dont je t'ai déjà expliqué qu'elle était semblable à une gestation pour naître à la lumière, à la vie. Donc Jésus parle à Marie Valtorta et à nous lecteurs. Et vous regardez avec horreur la fosse, le trou noir, où votre corps, vous vous aimez tant en idolâtre que vous êtes, retourne. Et votre corps, que vous aimez tant, pardon, en idolâtre que vous êtes, retourne à la vérité de ses origines, la boue. Mais de la boue dont émane une flamme, une lumière, qui est l'âme. Voilà ce qui donne de la valeur au corps. Ô être, et Jésus n'hésite pas à nous dire, nous surnommer stupides, ô être stupide, l'âme qui est le don de Dieu, l'esprit qui est la manifestation de Dieu, et qui a une valeur devant laquelle celles de la chair sont en rien méprisables. Mais comment pouvez-vous, vous qui vous appelez chrétien, ne pas vous souvenir les paroles du Christ, du Verbe, de la vérité? N'ai-je pas dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra par amour pour moi la sauvera? N'ai-je pas dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnera l'homme en échange de son âme? N'ai-je pas dit encore, si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits, mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Et tout cela ne vous a pas ouvert les yeux de l'esprit? Et Jésus poursuit à Marie Valtorta, mais évidemment, comment votre esprit peut-il ouvrir les yeux si vous l'avez enseveli sous les pierres de votre sensualité? Il est comme un martyr lapidé. Avec la différence que chez le martyr lapidé, la chair mourra et l'esprit entrera dans la gloire, tandis que si vous lapidez votre esprit et le frustrez de la lumière ici, eh bien, il sera aussi il n'appartiendra pas à la vraie vie. Et vous avez peur de la noirceur de la tombe pour votre chair désormais insensible comme motte de boue? De cela vous avez peur, oui, mais le fait de condamner à la noirceur éternelle ce qui en vous est lumière et aspire ardemment à la lumière infinie, donc Jésus parle de notre âme, hein, cela ne vous fait pas horreur, votre esprit. Et vous ne pensez pas que vous, chercheur assoiffé de richesse, perdez la richesse véritable. Et vous ne pensez pas, vous qui êtes assoiffé de vie, que vous vous donnez la mort qui ne meurt pas, la mort de l'esprit. Vous vous éteignez vous-même dans votre immortalité de citoyen céleste. Pire encore, vous mettez votre lumière entre les mains de Satan pour qu'il en fasse une lueur ténébreuse dans son royaume de ténèbres. Ô profanateur, c'est pire que si, avec vos découvertes diaboliques tournées vers le mal, vous réussissiez à arracher des étoiles de mon firmament et à éteindre l'éclat des diamants dans un marécage putride. Sachez faire mourir la chair, et non l'âme. Pour germer en épi éternel, votre postérité sur terre est toujours passagère. Les siècles ont détruit des lignées qui semblaient immortelles, et il ne survit d'elles que le souvenir, et de beaucoup d'autres, même pas cela. Mais ce que vous faites dans l'esprit ne meurt pas. Même au regard de la terre, regardez mes saints. Les siècles passent et leur culte demeure comme au premier jour. Et puis, ne travaillez jamais pour la gloire d'être connu sur les autels. Cela est encore humain et le vrai saint n'y pense pas. Il ne pense qu'à augmenter la jubilation de Dieu en ajoutant au pré-éternel l'éclat d'une nouvelle fleur et à satisfaire son âme qui s'agite et crie à cause de sa soif de posséder, de posséder Dieu complètement. Nous sommes deux soifs qui se désirent, nous sommes deux amours cherchent, l'âme et Dieu, Dieu et l'âme, voilà les deux amants éternels. Pourquoi frustrer Dieu et l'âme de leur fin, qui est de s'unir au-delà du jour terrestre dans l'éternelle demeure? Et voilà, Jésus est poursuit avec son enseignement sur l'âme, et il dit de ne pas se décourager à la fin, de continuer nos efforts, et puis... Enfin, il termine par un petit mot à Marie Valtorta, en lui disant qu'il lui a promis que si elle faisait un certain nombre de sacrifices, un certain nombre d'efforts, et bien que son âme, il la prendrait contre elle et qu'elle n'avait rien à craindre. Voilà ce très bel enseignement, très court, sur l'importance, la primauté de l'âme par rapport au corps. Il est bon de se le rappeler parce qu'aujourd'hui, nous sommes des humains. Et dans notre monde très modernisé, eh bien, nous sommes très sollicités pour la sensualité, alors qu'il faut bien se rappeler que tout cela a une importance tout à fait secondaire. Si nous devons veiller sur notre bonne santé, bien entendu, eh bien, nous devons faire tous nos efforts pour veiller sur la santé d'abord de l'âme. Donc, qu'est-ce que la santé de l'âme demande comme soin? Alors, je fais une petite parenthèse pour les rappeler. Les soins les plus importants pour l'âme sont évidemment, et tout d'abord, la prière. Hein, il faut se dégager un planning de prière. Jésus donne de nombreux enseignements sur la prière. Dans l'œuvre de Valtorta, il donne l'exemple surtout de sa prière. Très souvent, la nuit, le soir, les apôtres le voient prier, ou s'endorment et le retrouvent en prière. Donc la primauté de la prière pour toute vie chrétienne, et d'autant plus si on doit porter la parole de Dieu auprès des autres, en tant que chrétien, dans nos familles, dans nos groupes, dans nos amis, auprès de nos amis et auprès de ceux que nous ne connaissons pas, eh bien la prière doit être privilégiée dans nos journées. Donc on peut évidemment faire des temps de prière très facilement le matin, en se levant un peu plus tôt, on est dégagé de toute charge, on peut, si l'on peut dans la journée, en tant que laïc, et puis en tout cas toujours le soir. Il est bon de démarrer la journée par une prière la plus longue possible, la plus fervente possible, et de terminer le soir par une prière aussi. Alors on peut aussi lire les passages de Marie Valtorta pour s'aider à prier. C'est ce que nous enseigne ce qu'on appelle la lectio divina, la lecture de la vie de la parole de Dieu. Évidemment que si la vie de Jésus de Marie Valtorta n'est pas une parole de Dieu canonique, et par contre on peut la considérer évidemment comme une parole de Jésus, notre Dieu, au vu de toutes les confirmations scientifiques de cette ère surnaturelle, et encore une fois, pour des deux autres principes hein, qui nous indiquent que c'est bien une parole de Dieu, à savoir le fait qu'elle soit confirmée, fidèle à l'enseignement de l'Église catholique, et enfin, au vu de tous les fruits qu'elle porte dans les cœurs et auprès des différents lecteurs, prêtres, consacrés, laïcs ou autres, et les conversions qu'elle permet. Voilà, donc la communauté de la prière, ensuite la vie sacramentelle, hein, pour nourrir notre âme, et donc la fréquentation de la messe, et évidemment les sacrements comme la confession, et tout ce qui nous permet de grandir dans la sainteté, et les lectures de révélations privées qui sont fidèles à l'enseignement de l'Église. Voilà, c'est une petite parenthèse pour vous rappeler et tenter de vous donner des éléments concrets, nous donner des éléments concrets pour appliquer ce que le bon Dieu vient de nous enseigner, à savoir la primauté de l'homme sur le corps. Dimanche prochain, nous aurons l'évangile de Jésus-Christ, donc selon saint Marc, du baptême de Jésus, que je vais vous lire tout de suite. Eh bien, nous allons ensuite lire dans l'évangile du dimanche, hein, que j'ai dans les mains, cette petite trimestrielle qui se fait par abonnement, je le cite au passage, des éditions Maria Valtorta. Et donc l'évangile du dimanche concentre l'évangile canonique sur une page et ensuite le passage correspondant à l'œuvre de Maria Valtorta. C'est un excellent moyen de préparer la messe du dimanche. Et la messe aussi quotidienne. Pour ceux qui ont cette grâce, il y a les concordances des évangiles et celle qui correspond dans les visions de Maria Valtorta. Alors, voici le petit texte de Marc. « En ce temps-là, Jean proclamait, voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint à Nazareth de Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Aussitôt, en remontant l'eau, il vit les cieux se déchirer, l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouverai ma joie. » Voilà le petit évangile de Marc. Alors, dans Maria Valtorta, c'est comme si on passait de l'évangile canonique en passant dans les visions de Maria Valtorta, d'une télévision en noir et blanc à une télévision en couleur. C'est extraordinaire. Maria dit « Je vois une plaine inhabitée et sans végétation. » Il n'y a pas de champs cultivés, quelques rares plantes formant ça et là des touffes, comme des familles de végétaux, là où le sol a un peu de profondeur et se trouve moins aride. Remarquez que le terrain aride et inculte est à ma droite alors que le nord se trouve derrière moi et se prolonge pour moi dans la direction du sud. À gauche, en revanche, je vois un fleuve aux berges plutôt basses qui coule lentement, lui aussi du nord au sud. D'après le mouvement très lent de l'eau, je comprends que son lit n'a pas une pente très forte, que ce fleuve coule dans une sorte de dépression de la plaine. Le courant est à peine suffisant pour empêcher la stagnation de l'eau, etc., etc. Donc elle décrit toute en fait, la vallée du Jourdain, qui est très très belle, hein. Et puis à la fois, elle donne tous les petits détails. Je les passe, vous pourrez les lire dans l'œuvre de Maria Valtorta. Alors elle dit qu'il y a un certain nombre de personnes qui entourent un personnage, voilà. Et elle dit, Jean-Baptiste, comment dire, mais alors, quel nom donner à ce fougueux orateur, ce personnage? On pourrait, pour Jean-Baptiste, parler de coup de foudre, parce que c'est Jean-Baptiste donc, qui est au centre de la scène, coup de foudre, d'avalanche, de tremblement de terre, tant il est impétueux et sévère dans son discours et ses gestes. Il parle de la venue du Messie et exhorte les auditeurs à préparer leur cœur en les débarrassant de ce qui les encombre et en redressant leurs pensées. Mais c'est un parler frénétique et rude. Le précurseur n'a pas la main légère de Jésus pour soigner les blessures des cœurs. C'est un médecin qui les met à nu, fouille et taille sans pitié. Pendant que je l'écoute, je ne rapporte pas ces paroles parce que ce sont celles des évangélistes, mais qui dévalent en un discours torrentiel. Je vois s'avancer le long d'un sentier, le long de la bordure herbeuse et ombragée qui côtoie le Jourdain, mon Jésus. Ce chemin de campagne, plutôt sentier que chemin, semble dessiné par les caravanes et les voyageurs qui, pendant des années et des siècles, l'ont parcouru pour arriver à un point où le fond du lit se révèle et permet de passer à gué. Le sentier continue. L'autre, sur l'autre rive du fleuve et se perd dans la verdure de l'autre berge. Jésus est seul. Il marche lentement et en avançant, il arrive derrière Jean. Il avance sans bruit, tout en écoutant la voix tonnante du pénitent du désert, comme si Jésus était aussi une des nombreuses personnes qui venaient vers Jean pour se faire baptiser et se préparer à la purification pour la venue du Messie. Rien ne distingue Jésus des autres gens. Il semble un homme du peuple pour son vêtement, un seigneur pour la beauté de ses traits. Mais aucun signe divin ne le distingue de la foule. Cependant, on dirait que Jean sent une particulière émanation spirituelle. Il se retourne et il identifie tout de suite la source de cette émanation. Il descend vivement du rocher qui lui servait de chair et s'en va d'un air dégagé vers Jésus qui est arrêté à quelques mètres d'un groupe et s'appuie au tronc d'un arbre. Jésus et Jean se fixent un moment. Jésus avec son regard d'azur, si doux. Jean avec son œil sévère, très noir, plein d'éclairs. Les deux, vus rapprochés, sont l'antithèse l'un de l'autre. Tous les deux grands, c'est leur unique ressemblance, ils sont différents pour tout le reste. Jésus blond, aux longs cheveux peignés, au teint blanc ivoire, aux yeux azur, aux vêtements simples mais majestueux. Jean, hirsute, aux cheveux noirs qui retombent à plat sur les épaules et taillés en escalier, avec une barbe noire coupée à ras, qui lui coupe presque tout le visage et qui n'empêche pas de découvrir ses joues creusées par le jeûne, ses yeux noirs fiévreux, la peau bronzée par le soleil et les intempéries, et les poils épais qui la couvrent. Demi-nu avec son vêtement de peau de chameau, retenu à la taille par une ceinture de peau qui lui couvre le torse, descendant à peine au-dessus des flancs amaigris et laissant à droite des côtes découvertes, les côtes sur lesquelles il se trouve, unique tissu, la peau tannée par l'air. En vis-à-vis, on dirait un sauvage et un ange. Jean, après avoir fixé sur lui son regard pénétrant, s'écrie « Voici l'agneau de Dieu, comment peut-il se faire que mon Seigneur vienne à moi ?» Jésus répond tranquillement « C'est pour accomplir le rite de pénitence. Ah, jamais, Seigneur, c'est moi qui dois venir à toi pour être sanctifié, et c'est toi qui viens vers moi ?» Et Jésus, en lui mettant une main sur la tête, parce que Jean s'était incliné devant Jésus, lui répond « Permets que tout se fasse comme je veux, pour que j'accomplisse toute justice et que ton rite achemine les hommes vers un plus haut mystère qu'il leur soit annoncé que la victime est dans le monde. » Jean l'observe avec un œil dont une larme adoucit le regard. Il le précède vers la rive. Jésus enlève son manteau et sa tunique, gardant une sorte de caleçon court, et descend dans l'eau où se trouve déjà Jean. Jean le baptise en lui versant sur la tête de l'eau du fleuve, avec une sorte de tasse suspendue à sa ceinture et qui semble être une coquille ou une demi-calebasse séchée et vidée. Jésus est proprement l'agneau. L'agneau dans la blancheur de sa chair, la modestie de ses traits, la douceur de son regard. Pendant que Jésus remonte sur la rive et qu'après s'être vêtu, il se recueille en prière, Jean le montre à la foule et témoigne de l'avoir reconnu au signe de l'Esprit de Dieu qui lui avait indiqué et qui désignait infailliblement le Rédempteur. Mais je suis polarisé par le spectacle de Jésus qui prie et je ne vois plus que cette figure lumineuse qui se détache sur le fond vert de la rive. Voilà la belle vision que Marvel Torta a eue du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Donc il est fréquent dans l'œuvre de Marvel Torta de voir Jésus qui ne se manifeste pas comme le Messie. Hein, là ici, il s'approche de Jean, vous avez vu, il se place derrière lui et Jean, comme par l'émanation, donc le reconnaît, le sent, donc dans sa sainteté. Hein. Évidemment, dans d'autres cas, les gens ne le reconnaissent pas forcément. On voit certaines scènes où Jésus traverse une ville à un moment donné, et Jésus ne se fait pas connaître. Et il y a même une scène où Jésus croise une prostituée. La prostituée l'invite par un regard sensuel et Jésus lui répond juste par un regard sévère. Et la prostituée baisse la tête. Vous voyez d'autres scènes comme ça où les gens le croisent sur un marché. Alors évidemment, la plupart du temps, Jésus se manifeste, il enseigne et il commence, souvenez-vous, par rassembler tous les malades. Il demande aux apôtres d'organiser les distributions et toujours Jésus donne un enseignement spirituel avant de donner l'obole. Ça doit être un exemple pour nous. On accompagne nos générosités matérielles par un enseignement, quel qu'il soit. Au nom de Jésus, je vous le donne, en montrant Jésus, en disant qu'on est chrétien, en manifestant simplement le fait qu'on le fait parce que Dieu nous a demandé de le faire et que c'est sa loi et qu'on doit l'aimer et en profiter pour parler de Jésus autour de nous, de toutes les manières qu'il est possible de le faire. Voilà, donc cette belle vision, vous la trouverez donc dimanche prochain à la messe, hein, si vous avez l'occasion d'assister à la messe, donc Paul VI, messe en français. Pour ceux qui ont la messe donc en latin, vous pouvez avoir les concordances sur le site internet donc la messe Saint-Pie-V, aussi sur le site internet de l'association qui donne les deux rites pour que chaque personne puisse méditer l'évangile du dimanche avec le passage correspondant dans l'œuvre de Malatorta. Vous pouvez vous abonner évidemment gratuitement sur le site internet, je vous le rappelle, association Malatorta, vous tapez association Malatorta évangile du dimanche. Et puis, vous avez tous les indications pour vous y abonner. Voilà. Alors, Jésus donne de nombreux enseignements dans l'œuvre, dans tous les domaines. Un prêtre nous a dit que, d'une certaine manière, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, c'était tout l'enseignement, je le cite, de saint Thomas d'Aquin. Donc, l'enseignement de la doctrine catholique, mais tout simplement de manière narrative. J'aime faire cette comparaison que le spécialiste de saint Thomas nous a donnée. Donc, nous qui ne sommes pas des savants, les gens comme vous et moi, eh bien, nous pouvons accéder maintenant à la plus belle doctrine catholique, une des plus belles dans cette œuvre de Malatorta. Alors, j'aimerais ce soir vous parler de la bonté. Jésus nous parle de différentes manière de la bonté, évidemment il en parle beaucoup dans l'œuvre. Alors je vous ai classé les passages de Jésus par thème. Alors, il parle de la bonté éternelle. Voici un échange entre Judas et Jésus au sujet de la bonté et de sa place dans le temps. Ta bonté me frappe toujours, car elle est toujours si fraîche, si neuve. Moi je ne sais jamais parler quand je la trouve sur mon chemin, dit Judas. Et Jésus répond à Judas, tu as dit vrai. Ne peut le savoir, mais c'est parce qu'elle est ni fraîche ni neuve, elle est éternelle, Judas. Elle est partout présente. Il faut savoir que la bonté de Dieu est partout présente. Jésus explique que Dieu nous aime malgré nos péchés. Le Seigneur n'a pas manqué de bonté à l'égard de son peuple, bien que ce peuple lui ait manqué de fidélité des milliers et des dizaines de milliers de fois. C'est l'expression que nous connaissons sous notre mot actuel de la miséricorde. Jésus exprime sa bonté envers son peuple, malgré une faute. La récompense de Dieu est bien plus importante que le châtiment. Jésus en parle, donc là, je cite un autre passage où Jésus dit « Ne décevez pas le Seigneur, il promet le châtiment pour les coupables et pour les enfants des enfants coupables. Mais que votre esprit ne s'abatte pas. Écoutez l'autre promesse et exultez. Et je fais miséricorde jusqu'à la millième génération. À ceux qui m'aiment et observent mes commandements. Observe mes commandements. Donc, nous avons souvent des préoccupations en disant nos enfants, nos petits-enfants, auront-ils la foi ? Ben voilà, Jésus, la promesse de Jésus. C'est une promesse. Je la répète dans l'œuvre de Valtorta, paragraphe 5 au chapitre 120. Eh bien, je fais miséricorde jusqu'à la millième génération à ceux qui m'aiment et observent mes commandements. Donc, efforçons-nous d'observer les commandements de Dieu. Et, tôt ou tard, une grâce tombera sur nos enfants, nos petits-enfants. Et peut-être qu'elle n'est pas déjà tombée, en tout cas, elle les affermira sur la voie de la vie chrétienne et pourquoi pas de la sainteté. La foule s'en prend à un moment donné à un voleur qui se fait passer pour un pauvre. Jésus le châtie tout en exhortant à l'indulgence. Hein, vous vous souvenez peut-être de ce passage, pour ceux qui ont lu, si vous découvrez-le, c'est absolument magnifique. Il y a en fait une file de pauvres. Jésus distribue des biens aux pauvres. Et puis, il y a au milieu un voleur, quelqu'un qui se fait passer pour un pauvre et qui n'est pas pauvre. C'est un petit vieux. Alors Jésus lui dit, mais maintenant le petit vieux, couvert de honte, voyant son secret dévoilé, s'en va sans insister. Pardon. Au son de la voix de Jésus, la foule le menace, le persifle et le traite de voleur. Voilà. Et Jésus, petit Jésus, écoutez bien, taisez-vous. Si lui, il a fait une erreur, ne faites pas vous aussi d'erreur. Lui a fauté contre la sincérité, c'est un malhonnête. Vous, en l'insultant, ne manquez pas à la charité. Il ne faut pas insulter le frère qui a péché. Chacun a son péché. Personne n'est parfait excepté Dieu. J'ai dû lui faire honte parce qu'il n'est jamais permis d'être voleur. Jamais, et surtout pas avec les pauvres. Mais seul le Père sait si j'ai souffert de le faire. Vous aussi devez éprouver de la souffrance en voyant un Israélite manquer à la loi, en cherchant à faire tort aux pauvres et à l'aveugle. Vivez de telle façon qu'à l'heure de la mort, votre esprit puisse être en paix, dans la paix de celui qui a vécu en juste. Donc Jésus rappelle, vous voyez, très spontanément et très fortement, dès qu'une foule se met à critiquer quelqu'un. Donc cela doit nous exhorter, nous-mêmes, à ne pas penser du mal. Si on dit peut-être moins de mal ou peu de mal en tant que chrétien, eh bien il nous est assez facile de penser du mal. Donc on doit arrêter tout de suite dans notre esprit, faire l'effort d'arrêter notre pensée. Comme je le dis souvent, c'est comme une mauvaise herbe, hein, la pensée, elle pousse, et puis si on la laisse pousser, ben, ça devient absolument affreux, puis si on l'arrache, c'est très facile, on l'arrache dès qu'elle apparaît. Voilà. Et là, on a tous arraché les mauvaises herbes, c'est très bien quand elles sont 10 cm de haut, et après, une fois que le jardin en est infesté, c'est très embêtant. Pas tant de temps, c'est au moment de la pensée. Et voici ce que Jésus dit aussi à Matthieu, après avoir agi avec patience et délicatesse envers Marie. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui t'a le plus persuadé, ma patience et mes reproches acerbes, ma patience ou mes reproches acerbes des pharisiens? Pardon. Vous voyez, il parle à Matthieu qui est un converti. Hein. Jésus lui dit, qu'est-ce qui t'a attiré le plus, hein? Mes vertus ou mes reproches? C'est ta patience, lui répond Matthieu, au point que me voici ici. Les pharisiens, avec leur mépris et leurs anathèmes, me rendaient méprisant. On se raidit davantage quand, en étant dans le péché, on s'entend traiter de pécheur. Mais quand on reste nu devant la bonté, et de tout cœur, on la supplie de vous revertir, de vous revertir d'elle-même. On demande à la bonté qu'elle nous revête. C'est beau ce que dit Matthieu. Donc dans le volume 5, chapitre 184. De l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maranatha. Vous voyez comme c'est beau cet enseignement. Hein. Jésus fait dire par Matthieu que la bonté produit beaucoup plus de fruits que la réprimande. Alors c'est très dur à appliquer ça. Très difficile à appliquer dans nos vies. J'en témoigne, hein, il est plus facile de faire des reproches. Et bien pourtant, on doit témoigner avec patience de la bonté du Christ. Donc c'est ce qui pourrait faire venir à lui d'autres Matthieu. À un médecin qui employait son art à de mauvaises fins, Jésus dit « Tu as regretté d'avoir causé du mal au gardien de la prison. Tu vois que tu as encore de la bonté? Tu n'es pas méchant. Tu as seulement une grande blessure ouverte et personne ne la soigne. Ta bonté s'en va par elle, comme le sang par les blessures. Mais s'il y avait quelqu'un pour te soigner et te fermer ta blessure, pauvre frère, ta bonté, elle ne s'enfuirait plus au fur et à mesure qu'elle se forme, elle grandirait en toi. » Très beau. Jésus dit aussi que les bonnes actions élèvent l'âme jusqu'à Dieu. Elle dit que la bonté est donc un pont vers Dieu, hein, comme un pont pour aller vers le bon Dieu. Tout acte de bonté est l'origine de grandes choses auxquelles vous ne pensez pas. Et l'effort que fait quelqu'un contre son propre égoïsme pour provoquer une telle vague d'amour qu'elle est capable de monter en gardant dans sa limpidité celui qui l'a provoqué, jusqu'à le porter au pied de l'autel, jusqu'au cœur de Dieu. C'est beau, hein? Il faut, Jésus dit, vaincre notre propre égoïsme. Qui d'entre nous n'est pas dans des situations, je dirais, quotidiennes, tous les jours, où on doit supporter un défaut, où on doit être blessé par une petite parole, où on doit être victime d'une indifférence, etc. Et nous-mêmes, alors, peut-être qu'on provoque les mêmes choses autour de nous. Alors donc, Jésus dit, ben, il faut répondre par la bonté. Soit quand on encaisse, soit quand on n'est pas, on n'a pas envie de donner, ben, il faut donner. C'est pas facile, hein, je suis pas du tout bien placé pour vous expliquer tout ça, mais c'est bien ce que Jésus nous enseigne et ce qu'on doit se répéter et s'efforcer de vivre tous les jours. Alors, Jésus nous donne encore une réponse, une très belle réponse, pour la bonté, en disant qu'elle est partout présente. Hein. Tout est susceptible de bonne action. Hein, autrement dit, on peut, rien autour de nous nous empêche d'être bon. Même ce qui paraît être le moins adapté, continue Jésus, quand une matière se prête à la volonté de Dieu, fut elle-même la plus inerte, la plus froide, la plus dégoûtante, elle peut devenir mouvement, flamme, beauté pure. Hein, comme c'est beau. Les bonnes actions nous permettent de devenir mouvement, flamme, beauté pure, même si on se sent, si on se croit, fait d'une matière la plus inerte, la plus froide et la plus dégoûtante même. Enfin, Joseph d'Arimathie lui-même invite Lazare chez lui, sans honte. Non, il n'est pas juste que tu aies ainsi honte. Hein, un exemple de bonté, hein, ce que lui donne l'œuvre de Valtorta. Dans ma maison, personne ne te fera injure. Reste. Ai-je raison? Tu as eu raison. Et tu as bien fait, répond Jésus. Vous voyez, la bonté surnaturelle, veux-tu que je te le dise? Pardon, que je te dise pourquoi ta bonté surnaturelle te teinte déjà d'une perfection surnaturelle? Dit Jésus à Lazare, c'est parce que tu demandes un don surnaturel. Tu demandes le salut d'une âme et en même temps que ta sainteté est celle de Marthe. Vous l'avez compris, hein, Lazare prie pour Marie-Madeleine quand elle n'est pas encore convertie. Tu agis par une surnaturelle inclinaison vers l'humilité. Donc voilà, Jésus félicite Lazare parce qu'il souhaite la bonté, la conversion à sa sœur. Et il prie et il fait des sacrifices pour ça. Souvenez-vous de la maladie de Lazare, il offre de bon cœur, et qui obtient la conversion de Marie-Madeleine. Voici ces nombreux exemples qu'on peut trouver dans l'œuvre de Marie-Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, que je vous invite à lire. Vous le trouvez dans n'importe quelle librairie, partout. Vous pouvez l'écouter, je vous le rappelle, tous les jours sur Radio Maria. C'est un moyen simple d'y accéder. Et vous pouvez aussi vous munir des adaptations pour les enfants, qui sont faites maintenant pour les 4-7 ans, comme vous le savez, 8-12 ans, et 13 ans et plus pour les adolescents, et aussi adapté en bande dessinée par nos éditions Marie-Valtorta. Voilà, vous pouvez comme ça proposer ces magnifiques enseignements à Jésus. Fait par Jésus, pardonnez-moi, à tout votre entourage. Alors, j'ai reçu beaucoup de courriers, comme toutes les semaines, on en reçoit beaucoup, et je vous ai mis de côté un petit témoignage, j'attends que je l'attrape, voilà, d'une dame, c'est très très beau, qui nous dit, qu'en fait, c'est très beau, enfin je vais vous le résumer, elle a dit, j'avais commencé à lire les livres de Marie-Valtorta, et puis en fait, elle n'était pas décidée à connaître la vie de Jésus. Plutôt, elle avait cherché sur Internet les livres de Marie-Valtorta, et puis elle a dit, j'étais pratiquante, voilà, je lis sa lettre. Hein. Je crois connaître la vie de Jésus, et donc je renonce à lire la vie de Jésus. Et puis l'année d'après, je fais un pèlerinage à Lourdes, et je m'arrête dans la librairie. Je retrouve le tome 3 de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Marie-Valtorta. Ah, je ne le quitte plus, et rentré chez moi, je commande la série. Enthousiasmé, je veux faire connaître ce livre à les prêtres, et à ceux que je connais bien. J'en donne à mon curé qui ne se prononce pas, mais me laisse en mettre dans l'entrée de l'église. J'acquiers d'autres ouvrages pour ados et se simplifier. Personnes en ont lu plusieurs, d'autres ont mis longtemps, et petit à petit, les gens s'y intéressent, et je suis encouragé quand je vois le bonheur que cela a donné à des chrétiens de mieux connaître notre Seigneur. Moi, je peux le dire, ma foi a changé. J'ai réalisé ce que je croyais être une bonne chrétienne, charitable, etc. Et puis après, elle ajoute que non, après l'œuvre de Valtorta, elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup, beaucoup de progrès à faire et surtout d'excellents exemples en contemplant Jésus et Marie pour se mettre à leur école.
Bien, merci. Merci beaucoup, Bruno, pour ce témoignage et pour cet enseignement sur Maria Valtorta.
Avec plaisir, Jérôme. Merci à tous les éditeurs. Et puis rendez-vous, voilà, quand vous le voulez, chaque 1er janvier, jeudi du mois. Nous aurons la joie d'inviter d'autres témoins qui prendront la parole une fois ou l'autre. et puis de vous donner aussi toutes les, peut-être les nouveautés qui sortiront de cette magnifique œuvre au niveau des adaptations et des livres qui sont en cours de traduction actuellement, que nous pourrons vous présenter le mois prochain.
Bien, merci beaucoup, et Bruno, on vous retrouve donc le jeudi 4 février, même heure, 18h50.
Merci à tous.
Merci.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.